Véritable carrefour commercial où se croisent marchandises, banquiers et investisseurs, le Panama regorge de trésors cachés.
Euclides nous invite à découvrir les richesses de son territoire.
Beaucoup de personnes, effectivement, peuvent associer le Panama avec les Panama Papers ou un pays d'évasion fiscale, mais je dirais que le Panama, c'est un pays où il fait chaud toute l'année, on va dire environ 30 degrés toute l'année. C'est un pays qui est très proche de la mer, en fait, des deux mers. Donc, c'est un climat tropical, voilà, humide, un peu comme si on était un peu aux Caraïbes, quoi, aux Antilles. Je m'appelle Euclides et puis mon nom de famille, c'est Caicedo Sucre. Je viens du Panama. J'habite actuellement à Nantes. Et du coup, je vais vous parler du Panama, bien évidemment. Si quelqu'un veut s'imaginer le Panama, il ne faut pas que la personne s'imagine genre des pays d'Amérique centrale comme le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua ou le Salvador, ou même des pays d'Amérique du Sud comme le Pérou, ou le Chili ou la Bolivie, tu vois, ou l'Uruguay ou le Paraguay. Ça, c'est des pays où la culture indienne elle est un peu plus accentuée, tu vois. Nous, on aura plus, on va dire, de l'influence afro-antillaise qui est un peu plus forte, tu vois. Et ça fait un peu, nous on appelle ça l'idiosyncrasie du peuple. C'est un peu la façon de se comporter, de se gérer, de parler, tu vois, des personnes. C'est très caraïbe, c'est très, très, très black, très, voilà quoi, rigoler, tout ça. C'est vrai que l'Amérique s'est découpée en trois parties. Et culturellement, l'Amérique va être découpée en deux parties. Donc, tu as l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, et les restes, donc l'Amérique centrale, Caraïbes et Amérique du Sud, on peut appeler ça l'Amérique latine. Donc, c'est les pays, en fait, qui vont parler des langues latines, dont l'espagnol et le Brésil, qui parlent le portugais. Mais entre nous, on va dire Brésil et le reste du pays d'Amérique latine, et c'est la même chose. La même culture, la même façon de vivre, la même façon de rire. Donc, en Amérique latine, c'est très commun de... En fait, c'est la norme de garder toujours les noms familles du père et de la mère. Toujours. C'est pas comme en France où on garde que les noms familles du père. Et les Panama, c'est un pays où les Panaméens sont très accueillants, peu importe la nationalité, peu importe la religion, peu importe, on est très accueillants là-bas. Et puis, c'est un pays où je pense que les anciens coutumes, la société, elle a évolué, bien sûr, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé. Et c'est cet esprit de partage qui est un peu à l'ancienne, un peu dans les années où je suis né, 80-90, les années 2000, j'étais encore au Panama. Donc, et ça n'a pas changé. J'essaie de revenir tous les trois ans. Donc, à chaque fois, je m'actualise un peu sur comment les pays avancent et les personnes et tout ça. Et puis, à chaque fois, je m'aperçois que ça n'a pas changé, quoi. Les personnes sont très accueillantes et sont très avec un esprit de partage. Ils sont capables de te donner tout ce qu'ils ont et rester sans rien, tu vois, et avec l'objectif que tout soit bien, quoi. Et au Panama, majoritairement, on va retrouver des paysages côtiers, donc tout ce qui est plage, île, archipel. Et puis sinon, nous avons aussi tout ce qui est la forêt tropicale. Beaucoup de forêts, genre comme la forêt amazonienne, pardon. Vraiment très tropicale, très dense, très vert, très plein des animaux de tout type, toutes les couleurs. Quoi. Et puis bien évidemment, nous avons la partie de la campagne. Tout ce qui est la campagne, les personnes vont se dédier plutôt à tout ce qui est l'agriculture et puis l'élevage de certains animaux. Et c'est très calme, c'est très, très traditionnel la campagne. Et puis, nous allons trouver aussi tout ce qui est dans les forêts tropicales, les Indiens, certains Indiens qui habitent encore dans la forêt. Et puis, tu as des autres types d'Indiens, un deuxième type d'Indiens qui habitent dans les archipels et dans les îles. Ils habitent principalement dans l'archipel de San Blas. C'est un archipel qui est proche de la Colombie, on va dire. Et puis là, tu as plein d'Indiens qui habitent dans plein d'îles, des milliers d'îles. Donc, on les appelle les Kuna. Et du coup, tu vas bien évidemment retrouver aussi Panama Centreville, Panama City, la ciudad de Panama. Et puis, qui a une ressemblance à une petite Miami, beaucoup de gratte-ciel, très moderne, très cosmopolitain. Donc, et puis aussi les favelas, bien sûr. Mais après, comme Panama, c'est un petit pays, bah, ça fait des petites favelas, ça fait moins de pourcentage de. Enfin, tout est plus petit, quoi. Alors, Panama, c'est décomposé en 9 provinces, en grosso modo. Et puis, en grosso modo, tu as certaines provinces où c'est plus la culture antillaise. Donc, tu vas retrouver plus de personnes descendant d'Afro-Antillais, pardon, Afro-Antillais, ouais. Et avec tous ces coutumes et traditions que tu retrouves aussi dans toutes les zones du Caraïbe où il y a la culture antillaise. Du coup, voilà, ça c'est pour la partie qui est côtière, on va dire. Et puis sinon, dans tout ce qui est la campagne, tu vas retrouver majoritairement des personnes avec des traditions, des habitudes et même des têtes et qui sont, on va dire, issues du métissage indien-espagnol. Donc, tu vas avoir beaucoup de personnes qui ont la peau claire, les yeux clairs et puis des traditions espagnoles à peu près, même leur accent et tout, quoi. Ça, c'est la partie de la campagne. Et puis sinon, tu as aussi la partie où tu as posé les Indiens, quoi. Qui eux, ils ont leur culture aussi, avec leur langue, leur tradition. Donc, tout ça, c'est mélangé. Tous ces mélanges-là, ça fait la population du Panama. Et à ça, on doit ajouter que sur les 4 millions de personnes qui habitent le Panama, tu as 1 million de personnes non panaméniennes. Enfin, des étrangers, quoi. Tu as juifs et musulmans, tu as beaucoup de Colombiens, beaucoup de Vénézuéliens. Et puis, enfin, sincèrement, moi, si je fais on va dire, exercice de mémoire de toutes les années que j'ai vécu au Panama, depuis que je suis né jusqu'à l'âge de 24 ans, sincèrement, je n'ai connu des gens de, je dirais pas de tous les pays au monde, mais presque, quoi. C'est qu'en Panama, c'est, en fait, c'est une plein milieu, en fait, c'est un hub, on va dire, commercial, et même pour tous les vols qui vont aller ensuite et s'acheminer vers le reste de l'Amérique, quoi. Ça passe par Panama, donc c'est vrai qu'on a la chance d'être en contact avec toutes les personnes qui passent par Panama et puis qui veulent investir, etc., etc. Ouais. Qu'est-ce que c'est grandir au Panama? À l'époque où je suis né, tu vois, avant les années 2000, c'est une enfance un peu enfin, comme à l'époque d'avant, en fait. On jouait dans la rue avec nos amis. Et les jeux que enfin, les enfants aujourd'hui ne connaissent pas, peu importe, enfin, et basket, vélo, et on allait à la rivière, au lac ou à la plage, et nager, c'est comme ça qu'on apprend à nager. Et enfin, on jouait dehors, quoi, toute la journée. Je sais pas, on pouvait juste courir derrière un chien s'il faut. Bon, dans l'époque actuelle, ça se perd pas totalement. Je dirais que, tu vois, sur les 100% des enfants, on va dire, et je pense que quand même, il y a un 60% des enfants qui vont jouer encore à l'extérieur. Mais il va y avoir quand même un 40%, même peut-être la moitié, tu vois, qui seront plus attachés aux jeux de vidéo. C'est un peu comme ici, quoi. Mais il y a encore hein, des personnes qui jouent à l'extérieur et tout ça, quoi. Mais sincèrement, beaucoup moins. Une journée type on va dire, d'un citoyen du Panama, une moyenne, on va dire, peu importe le niveau, on va dire, socioculturel ou économique, je dirais que c'est lever de bonne heure. De bonne heure parce que il y a quand même beaucoup de bouchons, quand même. Pour les personnes qui habitent à la capitale, bien sûr. Et puis, aller travailler. Voilà, au Panama, la journée, c'est des 8 heures par jour. Et entre midi et 13 heures, c'est une pause, mais c'est comme si c'était à la maison, en fait, parce que vu que les gens sont très proches et très familiers, très décontractés, voilà, c'est un peu comme si une mini-fête, quoi, entre midi et 14. Les personnes vont rigoler, raconter des blagues. On va tous manger ensemble. Et puis en fin de journée, et pour les personnes qui habitent à la capitale, bien évidemment, ils vont un peu devoir supporter des bouchons. Et ceux qui habitent en campagne, bah, ils ne sont pas les bouchons, ils sont tout de suite chez eux. Et puis rejoindre sa famille le soir, quoi. C'est pour manger ensemble. Ça ne se perd pas. Par rapport à la France, et si on compare, hein, moi, ça fait 19 ans que je suis en France, donc je peux comparer. La différence est culturelle, tu vois. La différence, elle réside dans la façon que les gens y sont d'être, tu vois. Ici, comme c'est un pays plus ancien, c'est que les gens vont devenir un peu plus individualistes. Donc chacun pour soi, ça veut dire que les personnes sont un peu plus froides, on va dire. Et la communication, elle devient froide, pour être précis. Hein. Oui, pour froide, oui, mais c'est plus efficace aussi. Hein. Les gens vont pas trop, et tu vois, juste raconter des trucs pour raconter. C'est vraiment, si je suis au boulot, je parle de boulot, je pas ce qui m'intéresse, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Alors que dans des pays comme le Panama, les personnes, ils vont travailler, oui, ils sont efficaces aussi, mais ils vont ajouter gratuitement une note d'humour. Tu vois, un peu la bonne humeur, un peu les petits sourires, les petites blagues. Et même si c'est professionnel et ça travaille derrière, bah, ce n'est pas les mêmes humeurs, on va dire. Mais, en défense de la France, j'ajouterais que c'est normal de trouver, en fait, de retrouver que les personnes ils sont moins un peu gris, un peu moins de couleur, parce qu'il faut savoir une chose aussi. Au Panama, d'où je viens, il fait 30 degrés toute l'année. Nous, on n'a pas d'hiver, on n'a pas quatre saisons. On a l'été et la saison des pluies. L'été, il fait 30 degrés et t'as le soleil et les vents et tout ça. Et pendant la saison des pluies, c'est la même chose, sauf qu'il y a des moments où il pleut. Quand il pleut fort. Après, s'il y a un phénomène climatologique qui passe, un ouragan ou peu importe, oui, tu auras beaucoup de pluies très fortes, tout ça. Mais ça, ce n'est pas tout le temps non plus. Donc, du coup, quand la pluie s'arrête, il y a le soleil qui revient. Et il fait toujours 30 degrés, pluie ou pas pluie. Il fait 30 degrés. Donc, le fait d'avoir plus d'exposition au soleil et vivre dans ce climat, tu vois, où il fait pas froid, ça change totalement la façon dans laquelle tu te lèves le matin, la façon dans laquelle tu abordes les gens. C'est comme ça, c'est un différent météo, il fait froid. Mais moi-même, quand il fait froid, il fait gris dehors. Je ne suis pas avec l'humour panaméen ces jours-là. Beaucoup de personnes, effectivement, peuvent associer le Panama avec les Panama Papers ou un pays d'évasion fiscale. Moi, je n'utiliserai pas le mot évasion, puisque les impôts, là-bas, on ne peut pas les évader, que ce soit enfin, les gens du pays ou étrangers, peu importe. Il n'y a pas une vraie évasion fiscale, puisqu'on ne les évade pas, on ne les esquive pas. Et on va dire en quelques points. Le premier point, numéro un, c'est que Panama, c'est un pays où les impôts sont bas, si on le compare par rapport à ici. Et deuxième chose, il faut savoir que les impôts sont bas pour une raison. Cette raison-là, elle est financière et stratégiquement. Ça va attirer des investisseurs. Voilà. Et qui dit investisseur, dit les bons investisseurs, et les investisseurs, on va dire pas bons, entre guillemets. Ça veut dire blanchiment d'argent. Comme tous les pays où il y a un paradis fiscal, et si c'est le chapeau Guzman qui vient garder 1 milliard de dollars à la banque, ou si c'est le président Emmanuel Macron qui vient, on s'en fout. Business is business. Il paye son pourcentage d'impôts. Le pays, il fait de l'argent. Cet argent, elle va aider à développer le pays, parce qu'un pays qui a de l'argent, c'est un pays qui peut faire bouger l'argent. Générer des emplois, générer on va dire, d'investissements dans le tourisme, on va dire, dans tout ce qui est le bâtiment, etc., etc., etc. Il y a mille façons d'investir, mais il faut l'argent. Et est-ce que ça impacte la population? Oui, bien évidemment. Mais l'impact, il est positif. Parce que ça fait que dans tous les pays de la région, nous, le Panama, financièrement, nous, on est pas mal, tu vois. Notre favela, elle est toute petite. Oui, il y a de la pauvreté. Et oui, mais les minuscules par rapport à d'autres pays. C'est pour ça que d'ailleurs, on a beaucoup des immigrants qui viennent au Panama parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a le dollar, parce que tu peux t'en sortir. Moi, mon plat préféré personnellement, c'est un plat qu'on appelle sopa de pata. C'est un plat qui était préparé par ma grand-mère, il repose en paix. Et pour moi, c'est la meilleure cuisinière de tout le pays et de toute ma famille. Et ces plats-là, en fait, c'est une soupe qui est faite avec tu sais, les pieds de la vache, en fait. J'ai eu la chance au Panama de grandir dans une famille où il y avait beaucoup de femmes. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre, voilà, avec ma grand-mère avant qu'elle décède. Et même avec ma mère et mes tantes, tu vois. Donc, Et chez moi, on s'est préparé tous les types de plats typiques panaméens. Bon, chacun a ses préférences au Panama, si tu poses la question. Mais pour moi, un plat typique du Panama, qui pour moi, c'est dans les top 3, c'est un plat qu'on appelle le sancocho. Sancocho, c'est en fait c'est comme une soupe de poulet, en fait, avec des certains légumes et tout ça. Mais il y a une façon spécifique de la préparer. Et puis, comme c'est bien fait, c'est hyper bon. Sinon, nous avons aussi l'arroz con pollo. En fait, c'est du riz avec poulet. Il y a tellement de poulet qu'on pourrait appeler ça du poulet avec du riz. Et je dirais, dans les top 3 aussi, tu as tout ce qui est les plats et à base de fruits de mer, c'est la spécialité aussi. Au Panama, on va dire la place, on va dire, de la famille dans la vie et de chaque personne, c'est une place qui est prioritaire, très importante, puisque c'est vrai que nous sommes très attachés à tous les membres de notre famille, peu importe leur âge, hein. Les grands-mères, les oncles, les tantes, les cousins, et même les voisins, si ça fait longtemps qu'on habite là, et les voisins, et puis même nos amis, et dès qu'on côtoie certaines personnes extérieures à la famille, avec une régularité, on va dire, et il devient pratiquement comme de notre famille, tu vois. Donc ça, je parle de ça parce que ça, si nos amis et qu'on côtoie régulièrement devient notre famille, et pour de vrai, hein, c'est pas dans les sens ou juste les mots, hein, vraiment. Alors la famille, c'est plus, beaucoup plus que ça. Donc on est très attaché, voilà, aux liens familiaux. Donc et un exemple, on va dire tout bête, c'est que au Panama, en fait, c'est très 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 compliqué que les enfants aillent habiter, tu sais, indépendamment, quoi. C'est même s'ils travaillent. Et la maman et le papa ou la grand-mère, elle aura du mal à laisser partir. Hein. Tu vois, c'est pas grave si elle est mariée, s'il a des enfants, c'est pas grave. Il y a la place ici, on fera une autre maison à côté ou une autre chambre à côté. C'est très, très commun. Pas forcément dans la même maison, oui, ça existe, mais si des fois les personnes, ils se disent, bon, tiens, j'ai les moyens de me faire une autre baraque, mais je la fais à côté de la baraque de ma mère, tu vois. Et on sent naturellement, ce besoin de rendre l'appareil, de prendre soin d'eux à notre tour. Sans eux, on serait, on pour, on, sans, en fait, sans leur protection, leur amour et leurs choses qu'ils nous ont appris, sans tout ce qu'ils nous ont apporté dans la vie, on n'aurait pu jamais arriver là où on se trouve aujourd'hui, tu vois. Peu importe les degrés de succès. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, voilà, de familles qui habitent ensemble, ou juste à côté, hein, la maison d'à côté, l'appartement d'à côté, la rue d'en face. Comme c'est un pays très, très traditionnel, voilà. Et au Panama, un fait qui est très important, voilà, pour nous, très célébré, fêté, les gens vivent cette fête tous les ans avec la même passion. Ça va être on appelle ça la Semana Santa. La Semana Santa, c'est à peu près comme ici, un peu la carême, tout ça, là. Parce qu'au Panama, enfin, la majorité des personnes sont des religions catholiques. Nous sommes très pratiquants, pas extrémistes, pas à l'extrême non plus. On ne va pas à l'église tous les dimanches, quoi qu'il y a des gens qui oui. Mais les gens sont pratiquants, tu vois. Les églises, il y a du monde dans les églises. Et les gens, ils sont leur petite image de Jésus, la Vierge à la maison. Je ne me tromperai pas si je t'affirme que 90% vont prier avant d'aller dormir chaque jour. Un petit mot, merci, merci mon Dieu, voilà, pour cette journée, merci parce que, voilà, ça s'est bien passé, merci parce qu'on respire, tu vois, et même les matins, merci pour cette nouvelle journée, tu te lèves, tu es vivant, bah, c'est un privilège, tu vois, ça c'est très présent dans les personnes du Panama, dans notre culture, et puis d'ailleurs, hein, s'il y a quelque chose que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, habitude qui vient du Panama que je n'ai pas arrêté, on va dire, et ça serait les matins quand je me lève, tu vois, et les soirs avant de me coucher, voilà, je remercie pour tout, bon ou mauvaise chose, parce que les bonnes choses, bah, c'est très bien, tu vois, c'est agréable, mais les mauvaises choses, c'est pas des mauvaises choses, tu vois, c'est des expériences qui forcément nous apprennent quelque chose.